Bonjour tout le monde. Bon vendredi matin. Ben oui, c'est vendredi. On va le passer ensemble ce matin. Et on a pas mal de choses à discuter. Je pense des sujets qui vont vous intéresser parce qu'ils vont vous toucher directement. D'abord, il y a toute cette histoire là qui crée beaucoup, beaucoup d'insatisfaction chez les parents et chez leurs jeunes qui sont des fervents pratiquants de sport scolaire. Tous ces jeunes là, qui espéraient pouvoir recommencer à pratiquer leur sport préféré à l'école, ben là, évidemment, ce sera pas le cas. Puisqu'on a su que le ministère de l'Éducation, pour le moment, mettait ça sur la glace. Donc oui, retour en classe, mais pas sur les activités sportives dans un cadre scolaire. Fait que ça, c'est un peu incompréhensif parce que vous pouvez faire du sport à l'extérieur de l'école, mais pas à l'école. Évidemment, il y a beaucoup de sport. Puis peut-être que ceux qui pratiquent le football sont parmi les plus touchés là-dedans, en tout cas d'après ce qu'ils disent, parce que les gens de football disent que en temps normal, là, ça débute fin août, début septembre, il ne restera pas beaucoup de temps pour jouer au football, tu sais, si ta saison débute, mettons, début octobre. Après, là, il y a de la neige. Pas le fun. Donc, bref, deuxième heure d'émission, on va parler de ça à partir de 11h. Fait que je vous le dis tout de suite parce que j'aimerais beaucoup avoir vos commentaires là-dessus. Si vous avez des jeunes qui veulent témoigner, on va leur donner la parole. Si vous êtes un entraîneur, si vous êtes un parent, tout à l'heure, bien sûr, j'aimerais avoir vos commentaires là-dessus. En première heure, on va parler d'utilisation de vos données en santé. Vous avez entendu le ministre Fitzgibbon nous dire à quel point il trouverait que c'était « winner », la journée où on va pouvoir utiliser vos données de santé, les vendre aux compagnies pharmaceutiques qui, elles, vont s'en servir pour nous améliorer la santé. Hein, c'est vraiment dans un but d'améliorer le bien commun. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Moi, sincèrement, je pense qu'il faut qu'on nous donne plus d'infos. Puis c'est un peu ça qu'on va faire pour cette prochaine heure d'émission. On va essayer, avant de dire que ça n'a pas de bon sens, puis « over my dead body », comme le disait le député Vincent Marissal de Québec solidaire, on va voir, est-ce que ça peut être positif en partie, ou ce n'est que du négatif? Est-ce que l'idée même de vendre vos dîners, vos données de santé, ça peut être quelque chose d'aberrant pour vous, qui n'en est pas question? Ou, on peut peut-être avoir même une certaine rétribution pour ça. Je veux dire, tout est possible, tout est à faire. On va en parler tout de suite avec Éric Parent, qui est président directeur général de Eva Technologies, qui est une firme de cybersécurité. Bonjour Éric.
Bonjour.
On va essayer de comprendre, d'expliquer aux auditeurs un peu qu'est-ce que ça veut dire, ça. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Évidemment, dans le Journal de Montréal ce matin, ils ont fait une enquête sur une des entreprises qui semble être très près de l'Institut de cardio et très près surtout de Power Corp. Ce qu'on voit, là, c'est que c'est déjà comme installé un peu, là. C'est déjà en branle. Est-ce que ça a commencé, cette vente de nos données de santé à des compagnies de pharmaceutiques? On le sait pas tout à fait. C'est pas très transparent, mais voilà pourquoi c'est important de nous l'expliquer. À quoi ça peut servir d'abord, ces données que certains groupes ont sur nous pour ensuite les vendre à des compagnies pharmaceutiques? Ça peut servir à quoi?
Quand on fait de la recherche, qu'est-ce que ça nous prend? C'est des cobayes ou des statistiques pour prouver une thèse ou pour identifier des choses. Fait que je vais prendre comme exemple, on sait que les personnes roues sont plus sensibles au mal. Fait que ça, comment on arrive à cette conclusion-là? Si tu es juste le premier qui se plaint, puis on dit, il se plaint. Ou tu fais des tests, tu compares avec des milliers de personnes roues, des milliers de personnes avec les cheveux d'une autre couleur, puis là, tu arrives à une conclusion. Faire ça, ça peut prendre beaucoup de collisions. Ça veut dire qu'il faut qu'un médecin, finalement, qui en a croisé peut-être deux, puis il dit, là, c'est louche, là, j'en ai deux qui ont les mêmes symptômes. Ça fait que c'est un add-on. Si on a une masse de données, puis qu'on utilise l'informatique, l'intelligence artificielle pour creuser ces données-là, ça veut dire qu'on peut arriver à plein de conclusions de ce genre-là, instantanément, quasiment, là, dans un temps record. Quelque chose qui prendrait des chercheurs des années à arriver à ces conclusions-là. Ça fait que le côté intelligence artificielle, le côté d'aller dans les données, c'est vrai qu'il y a des bénéfices qui sont clairs.
OK. Puis à partir du moment où ces bénéfices-là sont clairs, je comprends que ça peut être clair pour les pharmaceutiques qui vont les acheter puis ensuite s'en servir pour nous vendre des produits, des médicaments.
C'est d'autres choses. Ça va être peut-être des mauvaises interactions avec des médicaments qui vont ressortir. Tu sais, si on s'aperçoit qu'on a une grande masse de gens, ces personnes-là utilisent deux produits, puis ça les a peut-être développé une troisième maladie, si on veut. c'est des conclusions qu'on peut faire quand on a une grande masse de données. Fait que ça peut bénéficier les pharmaceutiques, ça peut bénéficier n'importe qui fait de la recherche. Les universités pourraient en bénéficier de faire de la recherche là-dedans. Mais le problème qu'on voit, c'est qu'il y a toujours des gens qui vont évidemment faire de l'argent avec ça. Fait que si une de nos universités développerait un nouveau procédé, un nouveau produit, ben ça se ramasse toujours dans les mains d'une pharmaceutique qui va finalement nous les revendre. Fait que c'est un peu ça le problème qu'on voit. Là, on voit deux problèmes. Le côté anonyme des données, et puis le côté de quel bénéfice le peuple québécois va en retirer.
Bon, parlons du côté anonyme. Est-ce que c'est vraiment possible? Je veux dire, à partir du moment où on nous dit, faut que ces données-là soient vraiment... Tu as utilisé un mot tout à l'heure avec mon recherchiste, tu as dit, il faut qu'elles soient stérilisées. Ça veut dire, il ne faut pas qu'il y ait notre nom, il ne faut pas qu'il y ait nos informations personnelles, mais des données anonymes, est-ce que ça les intéresse vraiment? Est-ce que... Tu comprends, c'est ça. Là,
ben,
c'est...
Moi, je pense que oui, parce que l'anonyme, tu sais, le côté qu'on sait vraiment c'est qui la personne n'est pas vraiment pertinent pour la recherche. D'ailleurs, quand on fait des études, des recherches, souvent, on va nommer sujet A, sujet B, sujet C. Tu sais, on s'en fout du nom. Mais on veut savoir l'âge, on veut savoir un paquet de choses qui est pertinent au côté santé. Fait que, quand on parle d'anonymiser les données, il y a toujours un risque de pouvoir les dénes-anonymiser, finalement. Fait que, avec les applications qui traquent le COVID, exemple, on dit, ben on traquera pas c'est qui vraiment. Ouais, mais c'est parce que si tu traques ma géolocalisation, puis tu vois que je reste là le soir, ben, tu as pas mal une bonne idée c'est quoi mon adresse. Fait que là, si tu combines cette information-là avec une banque de données d'adresse et de nom, ben, tu peux arriver à la conclusion de c'est qui est tel téléphone ou tel système. Fait que c'est un peu la même chose. Il faudrait qu'il y ait un comité vraiment indépendant. C'est là que je trouve ça drôle, parce qu'on se ramasse avec des OBSL là-dedans, puis mais ils sont en réalité mis en place par des gens très puissants avec beaucoup d'argent. Fait que est-ce que ça va vraiment être anonyme? Est-ce que c'est vrai que les données vont être vraiment stérilisées? Parce que le terme stérilisé veut dire il n'y a plus de doute. Fait que c'est ça qu'on devrait viser. C'est juste que c'est peu probable. Fait qu'il faut arriver à un très haut niveau d'anonymisation. Puis là, ben, on serait à l'aise, comme n'importe quel projet de recherche, de partager ces informations-là. Mais il reste encore le deuxième morceau, là. C'est quoi le vrai bénéfice pour le peuple québécois?
Exact. Mais c'est quoi?
C'est toutes des compagnies, c'est des politiciens qui se graissent ou plein de compagnies qui font de l'argent. C'est OK, là, mais il manque de quoi, tu sais. Les Québécois, on est vraiment classiques là-dessus. Nos politiciens vont laisser Nestlé venir embouteiller notre eau puis nous la revendre à 2$ la bouteille. Puis le peuple québécois s'est fait avoir là-dedans. Mm-hmm. Faudrait vraiment être je veux pas dire méfiant parce que je veux pas être la personne négative, mais ce serait le fun que quelqu'un arrive avec un plan qui est concret. S'assure que si, avec ces données-là, je vais lancer un exemple, là, que ces données-là ont réussi à trouver trois différentes cures merveilleuses pour des maladies, ben il faudrait s'assurer que le peuple québécois a accès à ce produit-là, à ce traitement-là, à des pinottes, là, à des scènes, là, à quelque chose d'extrêmement valorisant pour l'investissement qu'on a fait, vu qu'on va partager nos données avec eux.
Mais on sait aussi que ce sont les compagnies d'assurance qui décident de ça. De ce que tu viens de dire, à partir du moment où la RAMQ est d'accord pour mettre sur le marché tel médicament, donc le reconnaît comme un médicament assurable, les compagnies d'assurance vont l'assurer, mais souvent
la recherche est plus... Parce que c'est nous, hein?
Oui, exactement.
C'est quand même nos taxes.
Voilà.
Fait, quand je parle de peuple québécois, je veux pas dire nécessairement littéralement quand tu vas aller aux Jean Coutu puis que ça va te coûter $1 de moins. Là. Non, ça va coûter $1 de moins aux payeurs de taxes parce que ce médicament-là, il est quasiment gratuit finalement au Québec. Mm. Fait que la RAMQ n'est pas obligée de payer. T'sais. Puis je dis quasiment gratuit, j'exagère peut-être, là, mais supposons qu'il aurait coûté $100 la pilule, ce serait le fun que la RAMQ en paye rien que 20 parce qu'on a participé au projet de recherche.
Oui, et ça, sincèrement, pas sûr que ça arrive, ça.
Ouais, mais un politicien qui se tiendrait, parce que c'est une mine d'or, ces informations-là. Puis si on est l'un des seuls présentement qui est willing qui voudrait bien aller dans cette direction-là, ben, faudrait avoir les couilles de leverager, tu sais, d'utiliser ce pouvoir-là.
Ouais. On n'a pas été capable de le faire dans des grands dossiers au Québec, tu sais, je pense, ne serait-ce qu'à Bombardier. Pas sûr que...
Ouais, mais ça, c'est parce que nos politiciens...
De faire valoir notre point sur bien des dossiers, j'ai l'impression qu'on est...
Parce que nos politiciens sont tous, non stériles.
Ouais.
Tous corrompus dans certains points.
Évidemment, bon, sur la question de la vie privée, parce que c'est ça qui nous intéresse, toi, tu es patron d'une firme en cybersécurité, on a encore l'exemple très frais de Desjardins. Il y a des milliers de Québécois qui sont encore dépatouillés là-dedans, qui essayent encore de savoir où sont allées leurs données. Là, évidemment, c'est les questions de vie privée. On en a parlé tout à l'heure. Tu parles de données qui doivent être à tout prix anonymes. Mais qu'est-ce qui nous protège? Tu sais, t'as beau dire, inquiète-toi pas, là, tes données là, vont être anonymes, il n'y aura jamais ton nom, on ne saura pas que c'est toi. Mais comment s'assurer qu'on ne sache pas que c'est toi, justement? On a vu avec, avec Desjardins ou avec d'autres exemples, à partir du moment où Revenu Canada se fait hacker, je veux dire, il n'y a rien qui empêche qu'un groupe comme ça qui possède les données... La RAMQ pourrait se faire hacker, puis on pourrait avoir ces données-là qui se répandent dans l'univers, puis on ne pourrait rien y faire. Là.
Mais ça, c'est vrai dans n'importe quel cas, parce que la RAMQ a ces données-là. Ça fait des éternités là, que les hôpitaux reportent ce genre de données-là. Ils vont dire, regarde, j'ai tant de personnes qui sont foulées une cheville, puis ils avaient tel âge, puis ils jouaient à tel sport, puis les statistiques, ils montent vers le haut. Fait que ça, c'est sûr que si la RAMQ est pas sécurisée, ça pourrait être exposé. En dehors de ça, dans le contexte qu'on parle là, d'un projet de recherche, ça change pas grand-chose. Mais le bout qui manque, c'est vraiment d'avoir une entité, une vraie OBSL, si on veut, qui est pas subventionnée par des gens qui ont du pouvoir, indépendant, qui va vraiment regarder avec des experts là, comment qu'on anonymise ça pour que ça arrive à un niveau que des experts vont dire on est confortable. Fait que si moi ou mes collègues on dit tout, ben oui, regarde, c'est correct, là, ben ça serait déjà bon signe. Aujourd'hui, c'est pas ça, parce que premièrement, on sait pas qu'est-ce qu'ils sont, on sait même pas c'est quoi les données qu'ils veulent partager.
Ben voilà, c'est rien, ça. Là. Ouais. Et comment on rend vraiment une donnée anonyme? Comment on peut la rendre véritablement anonyme, à part toujours d'un dossier patient dans ce cas-ci? Là?
Ben, je vais donner un exemple. Supposons qu'il arrive et qu'il dit on va mettre les codes postales juste pour qu'on ait une région. Ben, nous, on pourrait dire non, tu feras pas ça. Ou tu vas mettre peut-être juste les trois premiers caractères du code postal pour réduire la probabilité d'être capable de déduire c'est qui le patient. Ou on va dire vas-y par région, oublie ton code postal. Ça, dis-moi ça, c'est la Montérégie, ça c'est etc. Fait que là, tu peux utiliser des concepts de même. Mais ça prend quelqu'un qui le regarde, puis faut savoir c'est quoi les champs d'informations qu'ils veulent partager. Puis là, il faut les critiquer. Vous dire, ben, pourquoi ça? Ça fallait différemment. Ça ne fait pas ça de même. T'sais. Fait que vas-y avec les 450 ou les 514 à la place. Ben, laisse faire le code postal. Le code postal, c'est trop granulaire. Je ne vois pas pourquoi tu as vraiment besoin de ça.
Oui, mais ça, c'est des grandes questions d'éthique. C'est des grandes questions. Tout ce que tu vois, c'est une conversation. C'est beaucoup de questions à poser. Puis on les pose à qui? Je lisais ce matin l'enquête Journal de Montréal qui n'est pas rassurante dans la mesure où c'est tout sauf transparent. On lit que l'Institut de cardiologie de Montréal a publié un appel d'offres en janvier 2019. Personne n'en a entendu parler. Fait que 3 mois après, on s'est rendu compte que, ben, comme il y avait personne qui s'était proposé, ça se trouve être des entreprises qui sont, quand tu fais quand tu suis la ligne, où est-ce que ça mène? Ça mène à des entreprises sous contrôle de la famille Desmarais. Bon, peut-être qu'ils ont des bonnes intentions, là. Je critique pas et je pose des questions, mais ne fais pas des appels d'offres nébuleux. Préviens le monde. Il y en a peut-être qui vont être intéressés à faire d'autres OBNL là-dedans, tu sais. C'est ça le problème.
J'aime jamais ça, ces portraits-là, j'aime jamais ça. Parce que là, on voit qu'il y a eu une subvention de 4,5 millions, puis tout ça, mais. Tu sais, c'est sûr que c'est facile de critiquer. À mon point de vue, je me dis quand t'as plus d'argent que Dieu, pourquoi tu vas chercher une subvention de 4,5 millions si tu veux faire de quoi de bien? Là, fallait. Tu sais, ferme ta gueule, c'est facile de critiquer. C'est sûr que ça donne un très mauvais goût dans la bouche parce qu'on regarde ça, on dit ben c'est des affaires qui sont faites un peu rapido presto puis en dessous du radar pour pas que les gens aient le temps de réagir. On le voit tellement. Puis malheureusement, le peuple québécois, on s'est fait avoir tellement de fois dans des affaires de ce genre-là que.
Ouais. Mais tu sais, il y a un journaliste ce matin Jean-Denis Garon là, dans le Journal de Montréal qui dit inquiétez-vous pas, là, on est tellement en retard au Québec par rapport à tout ce dossier-là des grandes bases de données qu'on a tellement peur d'utiliser que finalement, ben on fait rien avec, puis non à la grande noirceur dans l'accès aux données. Je trouvais son avis intéressant, mais à un moment donné, j'ai comme décroché parce qu'il dit, il compare ça par exemple aux données fiscales. Il dit chez Statistique Canada, par exemple, on donne déjà accès aux données fiscales des Canadiens et des chercheurs. Ça aussi, c'est des données sensibles. Mais là, je dis, attention, que tu échanges mes données fiscales. D'abord, demande-moi, mais si tu me le demandes pas, c'est clair que ça me paraît quand même moins litigieux potentiellement que mes données de santé. Il y a comme quelque chose, quand ça touche la santé des gens, que je trouve là, c'est excessivement, c'est particulier là. T'sais, faut mettre les bretelles, puis faut mettre les gants, puis faut tu comprends, il faut savoir dans quoi on s'embarque là.
Absolument. Il faut savoir aussi qu'est-ce que les compagnies pharmaceutiques, si on partage ces informations-là, est-ce que ça arrête là? Est-ce qu'eux peuvent également partager avec d'autres? Et puis, comment qu'on contrôle les informations finalement? C'est beaucoup d'enjeux. Et puis, présentement, c'est un plan qui est vraiment pas clair.
Voilà. Ben écoute, merci beaucoup, Éric Parent. Ça part bien notre discussion là-dessus. Je pense que les gens qui nous écoutent ont sans doute déjà un petit moment, là, depuis un petit moment, une opinion là, qui commence à pointer. Je veux vous entendre là-dessus. Est-ce que vous seriez ouvert, on va le faire positif, seriez-vous d'accord pour qu'on utilise vos données de santé? Ça peut être fait dans un cadre où on ne sait pas du tout qui vous êtes. Anonymer, c'est devenu un nouveau verbe. On va anonymer vos données de santé. Ou anonymiser. ça se dit. En tout cas, on va les rendre anonymes. Dites-moi si vous êtes ouvert à ça, puis vous dites, ben, à un moment donné, il faut que tu trouves de l'argent quelque part. Le ministre de l'Économie disait, hey, c'est winner. Puis c'est vrai que ça peut être payant, là. Mais en bout de ligne, est-ce que ça l'est vraiment toujours? C'est ça, il y a beaucoup de questions qui se posent. On aura Steve Waterhouse un peu plus tard à l'émission aussi qui va nous donner son opinion là-dessus. En attendant, je veux la vendre. 514-790-9850. De l'extérieur, 1-866-790-9850. À tout de suite. Êtes-vous d'accord pour qu'on utilise vos données de santé, vos données personnelles qui sont donc à la Régie de l'assurance maladie du Québec? Je vous rappelle que ministre... Fitzgibbon, la semaine dernière, ministre de l'Économie, avait dit « Le jour où on va pouvoir être confortable de donner accès à nos données de santé aux compagnies pharmaceutiques qui vont venir dans les hôpitaux universitaires, qui sont d'ailleurs très performants, ça va être winner. » Lui, il trouve ça winner. Il dit que c'est une vraie mine d'or, que ces informations. Puis ça, que ça soit une mine d'or ou que ça soit le Saint Graal, effectivement, on est bien d'accord, ça vaut beaucoup d'argent, mais c'est pour ça qu'elles sont protégées, en théorie, ces infos-là. Mario, est-ce que vous seriez d'accord, vous, pour qu'on utilise vos données personnelles, tout ce qui a lieu, tout ce qui est, dans le fond, votre information santé, votre dossier santé?
Écoutez, Madame Maréchal, premièrement, félicitations pour votre émission.
Merci.
Et je vous dirais que moi, je suis complètement contre. Écoutez, on n'a pas allé si loin dans le passé. Les caisses populaires, on s'est fait voler nos identités. Il y a encore plein de situations comme celle-là qui prévaut. Mmh. Comment pouvez-vous m'assurer qu'une compagnie pharmaceutique qui vise essentiellement à faire de l'argent personnellement va faire tout ce qu'ils ont à leur pouvoir pour protéger nos informations? Un. Deux, au Québec, moi je considère, j'ai un médecin qui s'occupe de moi et qui fait un excellent travail. J'avais des problèmes de haute pression majeure. Il a réussi très, très bien à tout contrôler. Il n'a pas eu besoin de 250 compagnies pharmaceutiques. Il y a des bons chercheurs à l'Université de Montréal dans différentes places. Gardons ça simple. Comme ça, moins qu'il y a de monde qui met les mains dedans, mieux on va être garanti. Et j'ai jamais, à date, si quelqu'un peut me faire changer d'avis, mm-hmm. en me donnant une pharmaceutique qui va nous avoir fait faire de l'argent au Québec pour vraiment nous aider, ben, je vais être d'accord. Mais pour le moment, je pense que M. Fédéral, là, il y a vraiment écoutez, il voit rose partout, lui-là. Il est vraiment, c'est comme s'il ne se souvient pas d'hier, de ces quelques mois qu'on vient de passer. Encore dernièrement, c'est Desjardins, il avait 11 000 clients qui apportaient de données. Mm-hmm. Je pense que là, ça va prendre quoi, là?
Mais vous savez que François Legault, qui a été interviewé là-dessus pas plus tard qu'hier, il a défendu la position du ministre de l'Économie en disant il allait dans le même sens, là, que... François Legault est d'accord avec ça. Là. Il dit, si jamais on utilisait ces données-là, c'est sûr qu'il faudrait s'assurer que les noms, les adresses sont pas là. Mais il est d'accord avec ça. Mario.
Vous savez, M. Legault, premièrement, il serait bien surpris qu'il va démentir les propos de son ministre. Mais M. Legault, il peut avoir des intentions bien bonnes. Et regardons comme il faut, là. Je pense que le premier ministre, là-dessus, j'ai un grand respect pour notre premier ministre qui fait un travail... quand même considérable. Et moi, je n'ai aucune confiance à ce genre d'organisation-là qui vont picher dans nos dossiers, ouais. qui vont réussir à aller chercher nos dossiers. Écoutez, là, avec, ouais. Avec Internet aujourd'hui, là, on peut aller chercher n'importe quoi. Moi, je vous ouais. le dis, j'ai un très bon médecin. Les médecins du Québec font d'excellents travail. S'ils ont besoin d'avoir certaines recherches pointues, les universités, Mme Maréchal, sont là pour leur aider.
Ouais,
j'ai pas
ça.
Besoin d'une compagnie de New York à venir m'aider. Et surtout pas de l'extérieur.
Merci Mario, c'est très clair. Merci beaucoup. Serge, votre opinion sur des données de santé qui vous appartiennent, qui pourraient être vendues, ou parce que c'est ça l'idée, hein, l'idée c'est de faire de l'argent avec, à des compagnies pharmaceutiques pour développer leur recherche et les aider. Là, on nous parle beaucoup de l'idée que ça sauverait des vies. Là, on veut nous mettre ça vraiment positif pour l'humain. Serge, vous en pensez quoi?
Bon, alors moi, Madame Maréchal, je suis entièrement d'accord avec ça.
Ah, intéressant.
Dans
pourquoi?
Sens, mm-hmm. dans le même sens qu'on dit souvent, vous savez l'expression, Je donne mon corps à la science pour faire avancer la science.
Oui.
Je donne mes organes quand je meurs pour aider une personne qui, effectivement, pourrait avoir besoin d'un rein.
Oui.
Alors, ça va dans le même sens. Si, en plus, j'ai réussi à marchander, puis si, en plus, on me garantit qu'il va y avoir un anima sur mon nom, je vois pas pourquoi qu'on va commencer d'avoir peur, d'avoir peur, d'avoir peur, d'avoir peur. Alors, moi, entièrement d'accord, ça serait un go à 100 000 $.
OK. Est-ce que vous vous attendriez, Serge, à ce que vous ayez une certaine rétribution, soit directement, personnelle, ou, même si là, en théorie, si c'est anonyme, on pourra pas vous envoyer un chèque, mais est-ce que vous vous attendiez à ce moment-là à ce que le gouvernement négocie des tarifs préférentiels avec les pharmaceutiques? Parce que l'idée, c'est d'attirer les compagnies pharmaceutiques ici, là.
Moi, je reviendrais sur la négociation avec les médicaments. Vous savez qu'on... De plus en plus, le médicament coûte de plus en plus cher au gouvernement. On voit la facture qui grimpe. Alors, ça serait une belle, j'appelle ça une poignée, une belle poignée pour aller négocier. Puis dire, bon, mais maintenant, OK, on vous donne ça, mais on va faire des ententes pharmaceutiques d'achat de médicaments, peut-être un petit peu moins cher pour le Québec. Parce que c'est ce que je négocierais.
Voilà, d'accord. Ben, merci, merci beaucoup, Serge. Joe, bonjour. Votre opinion là, sur ces données santé qui appartiennent aux Québécois, qui leur sont propres, qu'on pourrait peut-être vendre à des compagnies pharmaceutiques pour le bien de la recherche. Vous en pensez quoi, vous, Joe?
Ben, bonjour. Ben, tout d'abord, moi, je suis tout à fait contre parce que moi, je trouve qu'on ne nous dit pas les vraies affaires.
Mm-hmm.
Parce que, voyez-vous, maintenant, on est rendu dans une ère que tout se centralise. C'est rendu, par exemple, Amazon, là, qui vaut des centaines de milliards.
Mm-hmm.
Pensez-vous que demain, Legault ou n'importe qui peut dire quelque chose à Amazon? Jamais de la vie. Tu peux pas dire à Amazon, monsieur Amazon, arrête de faire ça ou arrête de faire ça. On peut pas parce qu'ils sont rendus trop gros.
Mm-hmm.
C'est rendu qu'une compagnie vaut plus cher que le Québec puis sa dette au complet.
Mm-hmm.
Fait que, alors là, tout ce qu'ils nous font croire, en fait, c'est qu'il y a une guerre, en fait. La guerre qui se passe en ce moment, c'est les gouvernements contre les grosses sociétés, puis tu as des gens qui sont infiltrés dans les gouvernements et qui facilitent à ce que les grosses compagnies deviennent de plus en plus grosses. Mmh. C'est-à-dire que d'ici bientôt, ce qui fait peur avec ça, c'est que bientôt, il y aura un Walmart, il y aura un Amazon pour commander en ligne, puis il y aura une grosse compagnie pharmaceutique qui tient tout, puis c'est ça qui fait peur.
Mmh. Merci, Joe. Ça, en écoutant Joe, je pensais... Quand Joe dit, à un moment donné, il y a des groupes qui deviennent tellement gros que même les gouvernements ne peuvent plus les contrôler. Puis sincèrement, ça me faisait penser aux pétrolières. Vous savez à quel point les pétrolières sont fortes? Hein? Il y a eu des ministres, les uns après les autres, qui ont fait des tentatives là, pour essayer de contrôler le prix de l'essence dans les années où le litre, c'était inexplicable. Là. On se demandait, ça baissait le mardi, ça augmentait le jeudi, sans raison aucune. Et en particulier, juste à la veille de nos vacances, hein, vous en souvenez, parce que ça n'a pas tellement changé. Incapable de faire pression sur ces groupes-là. D'abord, il y a eu des espèces de tentatives d'enquêter sur ce qui semblait être une collusion. Mais ça s'appelle entre eux pour savoir c'est quoi ton prix à matin, là, que je fasse le même, que je mette le même. Mais sincèrement, essayer de faire pencher en faveur des citoyens automobilistes les grosses pétrolières, c'est fini. On n'y arrivera jamais. Jamais. Alors, imaginez les pharmaceutiques qui parlent aux compagnies d'assurance. C'est ça là qui est un peu inquiétant. Je veux pas faire peur au monde ce matin. Moi, je pose des questions, puis je me dis, OK, de là à donner un chèque en blanc, d'ouvrir la porte, puis de dire, oui, il n'y a pas de problème, c'est winner. Peut-être qu'il faut qu'on ait une petite gêne quand même. Marie-Christine, votre opinion là-dessus?
Moi, mon opinion, c'est que il faut laisser le gouvernement le faire en anonymant, en tout cas en rendant anonymes nos données.
Ouais.
Sinon, ce sont un ou des employés du gouvernement qui vont le faire. Puis eux, ils ne rendront peut-être pas anonymes pour de l'argent qu'ils vont le faire. Là.
Donc, comme le gars de Desjardins voulait dire. Là.
Ben oui.
Ah, ouais.
Mais c'est payant. Pourquoi ils feraient bien? C'est sûr qu'on peut soudoyer. Il y a toujours un prix pour certaines personnes. Je ne dis pas que tout le monde est malhonnête, là, c'est clair. Mais je pense qu'on est mieux de laisser le gouvernement le faire, le faire le mieux possible, que de laisser des employés malhonnêtes le faire pour un peu d'argent ou quelques cartes cadeaux chez Saint-Hubert.
Mais êtes-vous d'accord, Marie-Christine, pour dire qu'il faut que ça se fasse dans une transparence la plus totale?
Il faut que ce soit bien fait. Il faut que ce soit... J'espère que nos ministres puis les employés qui travaillent pour eux vont trouver une façon de le faire. Mais on sera jamais à l'abri du vol d'identité puis de nulle part. C'est le monde de l'avenir. On est là-dedans puis on sera toujours dans ça. Mais moi, je pense que si on laisse le gouvernement le faire, ils vont le faire probablement mieux que sur le dark web ou je sais pas quoi.
Merci, Marie-Christine. Ça m'amène à saluer Éric Parent, mais surtout sur cette question, Éric, avant de te laisser. Marie-Christine dit, on est rendu là. De toute façon, on est là, là. C'en est là. Ben, puis on sera jamais à l'abri. On sera jamais à l'abri du vol d'identité. A-t-elle raison?
Ah oui, elle a entièrement raison. Mais regarde, ça se produit déjà aujourd'hui. Hein. Ouais. Il faut penser que si on a un médecin chercheur, disons, dans le cancer, et puis qui travaille, ben, quand il fait un protocole pour tester un nouveau protocole contre un type de cancer, ouais, il fait de la recherche, il creuse, il partage avec ses collègues. Fait que c'est sûr que ce genre de partage d'informations-là, ça a toujours existé. C'est juste que c'est un plus petit volume. Alors là, on aurait un grand bénéfice à cause de la quantité, mais il faut le faire comme il faut. Puis un des termes qu'on utilise constamment, on dit que c'est une mine d'or d'informations. Ben, on peut faire un parallèle avec ça. Les mines d'or en Afrique, là, de la façon que ça fonctionne, ils vendent un territoire à une compagnie de la Russie. Puis là, ils ont le droit d'exploiter ce territoire-là. Puis qu'est-ce qu'ils trouvent finalement, c'est à eux autres. Fait que le peuple de l'Afrique, ils n'ont pas un très grand bénéfice, là. C'est toujours dans la recette de comment qu'on va le faire. Alors, si on peut arriver à une recette intelligente pour utiliser vraiment la valeur de cette masse de données-là, c'est sûr qu'il y a des bénéfices, mais il faut le faire comme il faut. C'est toujours le comment qu'on le fait, puis où que le bénéfice va se ramasser finalement, qui est le grand enjeu.
Oui. De ce que je comprends en ce moment, c'est beaucoup le privé qui est là-dedans. Le gouvernement a comme déjà laissé le champ libre à des entreprises privées, à des grandes familles connues au Québec qui semblent avoir un accès extrêmement privilégié que ni vous ni moi, on peut avoir auprès des gouvernements. Essaye de rencontrer le ministre de l'Économie, Fitzgibbon, pour le fun.
Mais imagine, on a plein d'universités. Là, je sais que Steve va sûrement en parler. Là, il connaît très bien le milieu des universités.
Ouais.
On a plein d'universités, plein de chercheurs super intelligents, mais ils n'ont pas accès non plus.
Exact. Et ça leur prend souvent des fonds privés pour être capables de mener à bien leur recherche. C'est ça la difficulté. Merci beaucoup, Éric Parent. Toujours intéressant. PDG de Eva Technologies. On s'arrête ici. Effectivement, Steve Waterhouse, expert en cybersécurité, va être avec nous tout de suite après ceci. Puis nos lignes sont pleines sur ce sujet. Je suis contente que ça vous branche parce que je pense qu'il faut être au courant de tout ça. Nos données médicales, celles qui sont stockées à la RAMQ, sont dans la mire des biotech, du Big Pharma, qui voient là des avantages. Peut-être qu'on peut être ouvert à cette idée de leur vendre nos données, mais quel sera le véritable bénéfice pour les Québécois? C'est la question qu'on se pose ce matin. Êtes-vous en faveur de ça? 514-790-9850.